What's up, Doc?
Cette semaine dans What's Up Doc, on va s'intéresser. Bah hier c'était Yom Kippour et vous le savez, le jeûne qui l'accompagne. Eh bien, je me suis dit tiens, ouais, pourquoi pas parler de ce dont beaucoup de gens parlent, mais que peu de gens connaissent vraiment, ou dont peu de gens connaissent vraiment tous les tenants, les aboutissants. Je veux parler du jeûne intermittent. Et donc pour ce faire, eh bien comme d'habitude, on va s'adresser à Dieu plutôt qu'à ses saints. Et donc nous sommes en ligne avec le docteur Alexandra Collard, elle est nutritionniste au Chirec. Docteur Collard, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation si matinale. Je sais que bah, vous avez des horaires extrêmement chargés. Alors, docteur, comme je le disais en préambule, on va parler du jeûne intermittent avec vous ce matin. Alors, la première question, elle est naïve de chez naïve, mais le jeûne intermittent, c'est quoi au juste ?
En fait, le jeûne intermittent, c'est une façon de s'alimenter qui consiste à respecter des heures sans prise alimentaire. Il existe sous plusieurs formes, hein, donc en fonction effectivement du nombre d'heures où on respecte l'absence d'alimentation, mais aussi par rapport à sa fréquence. Et les trois formes de jeûne intermittent les plus étudiées, c'est le jeûne en jours alternés, donc vous mangez normalement lors d'une journée et le lendemain, vous êtes en restriction alimentaire sans manger. Le jeûne, le régime de type 5-2, donc c'est 5 jours d'une alimentation normale et 2 jours de jeûne. Et l'alimentation en temps restreint, qui est le jeûne qui est le plus pratiqué aujourd'hui, en fait, qui autorise l'alimentation pendant une fenêtre de temps restreinte chaque jour. Donc ça, c'est vraiment les formes de jeûne intermittente qu'on connaît aujourd'hui.
Eh bien, quand vous parliez justement de fenêtres de jeûne par jour en termes d'horaire, est-ce que il y a plusieurs possibilités ? Est-ce qu'il y a des gens qui jeûnent, je dirais, 12 heures par jour et 12 heures non ? Ou bien est-ce qu'il y a vraiment des fenêtres plus adaptées ? Ou bien ça dépend des cas.
Alors, il faut savoir que ce que montrent les études, c'est que il y a quand même une façon de s'alimenter qui consiste à essayer de respecter une phase de jeûne prolongée, qui est la phase, on va dire, naturelle et qui correspond à ce qu'on appelle au rythme circadien de l'organisme, c'est-à-dire la phase de jeûne nocturne. Spontanément, on n'a pas tendance à manger la nuit. Si vous mangez la nuit, votre cerveau reçoit un signal qu'on est en pleine journée, et donc effectivement, il peut y avoir des perturbations, notamment, et donner toutes sortes de maladies métaboliques à cause de cette perturbation, du fait de venir manger alors que vous êtes censé dormir. Et donc, spontanément, on dirait que la façon la plus physiologique de respecter un jeûne est d'essayer d'augmenter cette restriction alimentaire le soir et le matin. Mais donc, vous avez, et ça c'est vraiment une question de mode, vous avez des jeûnes qu'on appelle 16-8, où vous essayez de ne pas manger de 16 heures de l'après-midi jusqu'à 8 heures du matin. Mais c'est une façon, quelque part, d'augmenter le jeûne nocturne, en fait.
D'accord. En vous écoutant, vous disiez, voilà, il y a un problème métabolique, c'est-à-dire il ne faut pas envoyer au cerveau pendant la nuit le fait qu'on mange, parce que pour lui, à ce moment-là, c'est la journée. On n'est pas dans un schéma jour-nuit, c'est-à-dire lumière et ténèbres, façon de parler, parce que sinon, ça voudrait dire que toutes les personnes qui travaillent la nuit et qui dorment le jour ne sont pas concernées par le jeûne intermittent, ou je me trompe?
Non, ils peuvent être concernés. Le problème, c'est que ça doit répondre, les dépenses caloriques doivent répondre aussi à des besoins énergétiques. Donc, c'est très compliqué pour une personne avec des shifts et des horaires de nuit de ne pas s'alimenter du tout pendant la nuit. Mais ce sont des personnes qui sont tout à fait susceptibles de développer des problèmes de santé, notamment métaboliques, comme les troubles du sommeil, comme les problèmes de poids qui sont fortement liés au fait de ne pas respecter le sommeil, comme les problèmes de diabète, comme les problèmes de cholestérol. Tout ça, c'est lié aussi à des changements de rythme circadien qui ne correspondent plus au rythme jour-nuit, ce qu'on appelle le rythme nyctéméral. Et donc, le jeûne intermittent peut être une façon d'essayer de récupérer les choses, mais concrètement, c'est très difficile pour une personne travaillant de nuit de pratiquer ce jeûne alors qu'il a besoin d'énergie également. Donc là, on est face à un problème sociétal où on arrive, à cause de situations professionnelles, professionnels, on provoque des problèmes de santé. Mais ça, c'est la société qui est comme ça aujourd'hui, malheureusement.
D'accord. Alors, j'imagine aussi, mais je m'avance peut-être, que des enfants ou des jeunes ados en pleine croissance, c'est peut-être pas l'idéal, ou bien vous allez infirmer ma proposition. Selon vous, à partir de quel âge on peut commencer à pratiquer le jeûne intermittent?
Mais tout dépend le contexte et la façon de s'alimenter. Donc l'idée, c'est quand même de se dire qu'on est dans un contexte, en tout cas chez nous en Europe et en Belgique, on est dans un contexte de suralimentation. Mmh. Il y a une exposition alimentaire qui est très importante. Déjà, quand vous vous promenez dans différents endroits publics, l'exposition alimentaire, elle est physiquement très importante, mais il y a également une exposition alimentaire qui est très importante par rapport à nos horaires. Et donc, on a tendance à avoir une déstructuration alimentaire de plus en plus importante, c'est-à-dire que on mange, mais on grignote, et puis on mange encore un petit quelque chose avant d'aller dormir. Et donc, voilà, et diminuer cette exposition alimentaire au niveau de ses horaires est quelque chose que toute personne aujourd'hui pourrait faire, parce que si on regarde une personne normale, un citoyen normal, on est dans une consommation excessive d'aliments. Ça, c'est évident. Donc, c'est vrai que l'éducation permet de diminuer cette exposition alimentaire. Le fait de savoir qu'on est exposé et qu'on mange trop permet aussi de diminuer. C'est souvent un problème de connaissance et de manque, quelque part, d'éducation, mais aussi un problème de santé publique générale, évidemment. Aujourd'hui, malheureusement, il y a peu de moyens et tous les intervenants au niveau de la santé le crient haut et fort. Il y a quand même des grosses difficultés au niveau de la santé publique et on se rend compte que cet environnement est de plus en plus toxique pour la santé et il n'y a pas encore suffisamment de prise en charge au niveau de la santé publique pour essayer de prévenir tous ces problèmes de santé.
Bien. Alors, je l'évoquais en préambule de nouveau. Pour nous, c'était pour la communauté juive, c'était le jeûne du Kippour hier. Le jeûne du Kippour qui se symbolise par ni alimentation ni boisson. Est-ce que c'est le cas du jeûne intermittent? C'est également interdiction. On se prive de boissons également ou bien les boissons sont tolérées?
Alors, en fait, on est dans un contexte complètement différent. Le jeûne intermittent, c'est un jeûne qui est pratiqué pour essayer d'améliorer sa qualité de vie et sa santé. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire dans un cadre, il faut quand même avoir un avis médical avant de pratiquer ça, parce que ici, on parle d'un sujet sain, dans le cadre
de la pathologie. Ça, c'est important. Pardonnez-moi de vous interrompre, c'est extrêmement important ce que vous dites. Donc, les gens qui ont envie de pratiquer un jeûne intermittent, on va leur dire, prenez conseil auprès d'un médecin pour voir si c'est quelque chose qui peut vous être bénéfique. On est d'accord.
Bien sûr, bien sûr. Donc, il faut évidemment avoir un avis médical et pas pratiquer ça sans avis. Donc, ce jeûne intermittent, l'objectif, c'est une amélioration de sa santé. Vous avez un jeûne qui peut être un jeûne thérapeutique, et donc ça, c'est un jeûne qui pourrait être utilisé comme un outil thérapeutique, et ça, c'est une terminologie qu'on utilise notamment dans les études pour essayer d'améliorer les patients qui sont en cancérologie et pour comme thérapie adjuvante, vraiment comme une chimiothérapie, essayer de proposer un jeûne, une restriction calorique très importante à ces patients pour essayer d'améliorer leur pronostic de vie. Et puis, vous avez le jeûne dans le contexte de religion, qui est tout à fait différent. Il y a un quatrième type de jeûne qui est le jeûne aussi dans un acte symbolique qui peut aussi être comme un outil de revendication. Le jeûne dans le contexte de religion, il existe depuis la nuit des temps, si on se concentre uniquement sur les religions abrahamiques, sur nos trois religions monothéistes qui sont les plus connues chez nous. En fait, ces religions, elles ont toutes les trois des interdits alimentaires et des règles, dont notamment ces phases de jeûne. Mais c'est surtout pour deux raisons qu'elles sont pratiquées. C'est d'abord dans un besoin de spiritualité et d'élévation, hein, c'est pas du tout la même chose au niveau du jeûne intermittent. Donc, c'est essayer de détacher l'homme quelque part de son animalité avec des règles sur l'alimentation, aussi sur la sexualité d'ailleurs. Et aussi peut-être, en tout cas dans la religion chrétienne, pour essayer de limiter la notion de plaisir qui pouvait être vue comme un péché. La deuxième raison du jeûne pratiqué dans la religion, c'est la volonté de distinguer le profane ou le groupe de fidèles par rapport aux autres. Et donc, les règles sont complètement différentes et ce n'est pas l'objectif. Donc, effectivement, dans un jeûne intermittent, vous pouvez boire, vous pouvez consommer des bouillons, vous le faites comme vous voulez. Le fait de boire n'est pas du tout interdit quelque part. Il n'y a pas d'interdiction. Ce sont des conseils qui sont donnés et libres aux patients d'adapter la situation. Maintenant, moi, ce que je vois dans la patientèle, c'est des gens qui sont très motivés pour des raisons, et pas toujours pour les bonnes raisons, mais notamment pour la perte de poids. Donc, il faut savoir que les études n'ont pas encore montré clairement l'efficacité au niveau du poids pour le jeûne pratiqué. Et donc, quand c'est fait dans un but comme ça très précis, ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand vous vous mettez au jeûne intermittent, c'est quelque chose qu'il faut quand même essayer de reproduire dans le temps. Si vous jeûnez pendant 3 mois avant de partir l'été pour des raisons de poids et qu'en été, vous ne respectez plus ces phases de jeûne, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, vous mettez votre organisme en restriction, puis le jour où vous remangez tout à fait normalement [S2] Absolument. [S1] Et en respectant plus ces phases de jeûne, qu'est-ce qui se passe? Mais votre organisme, il stocke pour la prochaine, entre guillemets, famine. Et donc, vous risquez de reprendre du poids. Donc, en tant que régime restrictif, ça, c'est quelque chose à déconseiller. En tant qu'hygiène de vie, pour essayer de diminuer l'exposition alimentaire qui est trop importante par des horaires plus limités, ça c'est quelque chose qu'il faut encourager. Et notamment, il y a beaucoup d'études sur l'animal qui ont montré, et ça on peut en parler plus longuement si vous désirez, une action sur le vieillissement. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut être intéressant en tout cas.
Oui, ça j'imagine, mais ce sera l'objet d'une prochaine chronique parce que le temps filant. J'avais encore une ou deux questions à vous poser, docteur. Vous l'avez dit, ça peut être extrêmement utile dans le cadre de personnes qui souffrent de cancer. Donc c'est un côté curatif ou thérapeutique, c'est pour reprendre vos mots. Mais est-ce que c'est également, on peut l'utiliser de manière purement prophylactique, le jeûne intermittent?
Oui, prophylactique, bien sûr, parce que dans ce processus, dans toutes ces études qui ont été faites notamment chez les animaux, donc il y a beaucoup de publications et de nombreux travaux sur les modèles animaux, ils montrent les impacts positifs du jeûne intermittent, en fait, en travaillant essentiellement sur 2 facteurs, sur la réduction de l'inflammation et sur la réduction du stress oxydatif. Et donc, vous savez que le vieillissement, en fait, c'est de l'inflammation et c'est une mauvaise réponse par rapport à une inflammation chronique en fait. Et donc le jeûne intermittent, il limiterait ces 2 facteurs en fait en limitant quoi ? Le taux sanguin de sucre, de glucose et d'insuline, en améliorant la sensibilité à l'insuline et surtout en améliorant le profil lipidique, donc le profil de graisse et la pression sanguine, donc la tension artérielle. Et donc vous comprenez mon propos, forcément.
Absolument.
Si
enfin, je pense.
Vous avez moins de résistance à l'insuline, si vous avez un meilleur profil au niveau de vos graisses circulantes dans le sang, une meilleure tension artérielle, c'est de la prophylaxie et ça veut dire qu'il y a une diminution de toutes ces maladies métaboliques, c'est-à-dire les problèmes de cholestérol, le problème de prédiabète et de diabète, les problèmes d'hypertension artérielle, donc tout ça va, c'est de la prophylaxie, donc il y a un impact. Alors maintenant, ce sont des pistes de travail qui sont très intéressantes, mais ce sont des résultats qui sont préliminaires. Il faut savoir que les études qui ont été faites chez l'homme, ce sont des études d'abord qui n'ont pas été faites au long cours, qui ont été faites sur une population américaine, et ça c'est important de le signaler parce que c'est difficilement transposable sur la personne qui vit en Europe, puisque vous savez que l'indice de masse corporelle est beaucoup plus important aux États-Unis que chez nous. Mm-hmm. Mais ça reste quand même des pistes qui sont très très intéressantes pour notre santé métabolique, et ça c'est important.
Bien, ben en résumé, enfin pas en résumé, mais en un mot, docteur, j'ai envie de dire, le jeûne intermittent pour vous, médecin, mais aussi pour vous, citoyenne, glope ou pas glope ? Bonne chose ou moyen
bonne
ou
chose,
entre les deux ?
Bonne chose pour réduire notre temps d'exposition alimentaire.
Eh bien voilà, merci infiniment. Docteur Alexandra Collard, je rappelle que vous êtes docteur nutritionniste et vous travaillez au CIREC. Merci infiniment encore d'avoir accepté notre invitation et à très vite. Belle journée à vous.
Voilà, merci pour votre invitation.
Avec plaisir, au revoir.
Au revoir, au revoir.